Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Chacun d'entre nous assis sur son siège, son banc, si vous préférez, nous allons nous préparer pour un décollage en règle.
Sommes-nous réellement assis?
On pourrait être debout, puis les gens le sauraient pas.
Exactement.
C'est ça la magie de la radio.
Ben, c'est ça. C'est l'imaginaire.
J'ai un peu de difficulté, je vais être très honnête avec toi.
Oui.
J'ai un peu de difficulté avec les shows de radio qu'on regarde sur Internet. Tu vois ça des fois?
Ouais. Ça défait un peu, le côté, comment je te dirais, pas privé, mais ouais, un peu privé de la radio.
Là. Ouais, ben la magie des ondes. Là.
Oui, c'est ça, parce que la beauté de la radio, c'est que ça fait fonctionner l'imaginaire des gens.
Vous nous attrapez, mesdames, messieurs, dans une discussion en ouverture de cette émission-ci.
Oui, en passant, bonjour.
Et on vous souhaite la bienvenue. Évidemment, on voulait pas faire sauvage non plus, mais...
Ben non.
On voulait juste vous inviter à décoller avec nous autres pour une nouvelle édition de « Peut contenir des infos ».
On décolle. Ça tombe tellement bien parce qu'on va se parler dans le premier bloc. Faut décoller.
On va parler d'avion.
Oui.
Est-ce que tu veux que je commence ou tu veux commencer?
Regardons un peu.
On va laisser commencer les aînés.
Ouf. Ouch.
Un petit coup de poignard dans le dos.
Ah, ça fait mal un petit peu, ça.
non, mais c'est sans skinnerie, oui. Mais c'est juste dans la réalité.
On va se parler d'avion, effectivement, parce que c'est un procès. Qui a commencé comme tant d'autres procès aux États-Unis, un dénommé Roberto Mata qui a décidé de poursuivre la compagnie aérienne Avianca, affirmant qu'il avait été blessé par un chariot de service en métal, et Dieu sait que je m'en suis déjà fait péter un sur un genou, et effectivement, ça fait bien mal.
Ouais, quand t'as la patte qui dépasse, là.
Oui, c'est ça. Et, tout allait bien. Les avocats ont posé leur cas et tout ça. Et lorsque Avianca a demandé au juge de rejeter l'affaire, les avocats de M. Mata s'y ont bien sûr opposé et ils ont déposé un dossier de 10 pages qui citait 6 jugements qui étaient pertinents à leur cas.
Okay.
Il y avait, entre autres, Martinez contre Delta Airlines, Zuckerman contre Korean Airlines et, bien sûr, Varghese contre China Southern Airlines.
Des dossiers similaires, je présume?
Des cas similaires à leur affaire à eux autres.
OK.
Il y avait juste des petits problèmes.
Ah.
Un tout petit problème. C'est que personne... Ni les avocats d'Avianca, ni le juge ne pouvaient trouver les jugements, ni les extraits cités et résumés dans le fameux mémoire. Pourquoi?
Oh, OK, je te vois venir, là.
C'est parce que ChatGPT avait tout inventé.
Tu me niaises.
Yeah.
Le gars?
L'avocat?
Non.
L'auteur du mémoire, Maître Steven Schwartz.
Aïe, aïe.
A fait acte de contrition devant le juge, il n'y a pas eu le choix pour monsieur, parce qu'il s'est servi de cet outil d'intelligence artificielle pour faire ses recherches.
Ben non.
Oui. Et là, il a avoué que c'était une source qui s'était révélée non fiable.
Ouais. On vous l'a déjà dit. ChatGPT, là,
oui.
Faut pas que tu prennes tout pour du cash là-dedans, là. Parce que c'est un outil de création, souvent qu'autrement, qui, lui, va repiquer des informations à gauche et à droite et il va te créer des affaires avec ça.
C'est ça. Il faut faire extrêmement attention. Monsieur Schwartz, qui exerce la profession d'avocat à New York depuis 30 ans. Depuis 30 ans, oui. A dit que c'était la première fois qu'il se servait de cet outil-là, ChatGPT, bien des gens lui en avaient parlé, puis tout ça, puis bon, en tout cas, il avait décidé de se servir de ChatGPT, et il a demandé à plusieurs reprises à ChatGPT, à savoir, OK, ce que tu es en train de me dire, là, c'est-tu vrai? Et à chaque fois,
ChatGPT,
il a dit, oui. Oui, oui, c'est des cas que j'ai trouvés sur Internet. C'est des cas qui sont répertoriés dans le domaine de la justice et tout ça.
Je trouve ça préoccupant, François, très préoccupant.
Ben, mais en que c'est préoccupant. Selon Monsieur Schwartz, il a consulté ChatGPT pour compléter son propre travail. Et en consultation avec le robot, ben oui, toi. Le robot conversationnel de ChatGPT affirmait que les causes citées étaient véridiques, alors qu'elles étaient fausses. Puis pourtant, il avait demandé, là, est-ce que Vergès, c'est une vraie cause? Oui, c'est une vraie cause. J'ai trouvé les références et ça existe. Mais tout ça, tout ce temps-là, c'était faux. Alors, son fameux 10 pages qu'il a déposé, le pauvre monsieur, il a eu l'air un peu cave.
Et, ben, est-ce qu'il a perdu? Je présume que oui.
Ben oui, effectivement. Mais le pire, c'est que là, il va, lui, devoir passer devant le juge.
Ben oui.
Parce que là, lui, il a trompé la cour.
Il a trompé. Aïe, aïe.
Fait qu'il va y avoir des,
trouve ça inquiétant,
il va y avoir,
François,
des conséquences.
Je trouve ça inquiétant, François, parce que dans ce cas-ci, l'avocat ou les avocats, oui, de la défense et le juge ont fait preuve de perspicacité ou ont été assez intelligents pour dire, ah, attends un peu, là, on va aller fouiller.
Oui, oui, on va aller fouiller.
Mais va savoir si tous les avocats auront cette présence d'esprit, mm-hmm, et fouilleront suffisamment loin, parce que ça se peut que ChatGPT, à un moment donné, sorte des affaires, des causes qui sont bel et bien réelles, mais, oh oui, dont le fond, si on veut, ne s'avère pas tout à fait conforme aux prétentions de l'avocat. Puis si tu fouilles pas, oui, ben au final, tu t'aperçois que oui, peut-être que la cause que ChatGPT t'a présentée est tout à fait réelle,
existé,
mais que,
oui,
la conclusion est pas celle que tu énonçais, ou encore les preuves qui ont été mises devant la cour ne sont pas nécessairement celles qui sont prétendues dans la réponse de ChatGPT. Vois-tu comment cet outil-là...
Ça va devenir un méchant problème.
Ça va devenir un gros problème.
Oui.
Et ceux qui,
oui,
défendent bec et ongle, oui, l'intelligence artificielle en disant que c'est la plus grande invention après le fil à couper le beurre ou après le toaster à quatre tranches, là?
Non, moi, je pense pas. Là.
Ben, écoutez, là...
c'est un outil qui est extrêmement dangereux et le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles encore qui existent. Et c'est là, et surtout un code d'éthique, là. Ça va prendre un code d'éthique, puis ça commence à presser. Et là, il y a des gens qui commencent à s'activer aussi, là, pour justement mettre sur pied un code d'éthique pour l'intelligence artificielle, parce que ça va devenir ben trop dangereux. Ça tombe dans les mains de quelqu'un là qui a pas des bonnes idées là, parce que ça pourrait faire ben des dommages. Là.
Ah oui, c'est pour le moins inquiétant.
Oui.
Je veux te parler rapidement.
On va rester dans les airs.
Oui, dans les airs. Je veux te parler rapidement des sièges en avion. Comment choisir le bon siège en avion?
Ouais. Pas celui-là à côté de l'aile ou ce qu'est le moteur là.
Ben attends.
Hein?
Ah, tu vas voir.
Oh.
Quand vient le temps de choisir un siège dans un avion, il y a quelques facteurs qui sont à prendre en considération.
OK.
Et je vous donne les meilleures et les pires places à choisir. D'abord, écoutez, là, je pense pas rien vous apprendre en vous disant que plus vous réservez tôt, meilleures sont vos chances de choisir le siège qui vous tente, là.
Effectivement.
Si tu veux faire des deals, peut-être que voyager student standby à dernière minute, ça peut être intéressant,
mais
tu vas peut-être être assis sur le bord des toilettes, puis
c'est, ouais,
là
c'est
où tu veux pas être assis. Alors, les pires places, je commence avec ça, OK?
OK,
les,
oui,
les,
oui,
pires places. Qu'importe la classe de vos billets, que ce soit classe économique, affaires, etc., fuyez les sièges qui sont près des toilettes. Parce que...
ouais, pourquoi?
Parce que d'une part, c'est un endroit qui est très, très fréquenté.
Oui, effectivement.
Hein, dans un vol.
Oui, effectivement.
T'aimes pas nécessairement entendre les gens qui sont de l'autre bord de la cloison en train de faire le numéro 2. T'aimes pas nécessairement avoir les odeurs, peut-être, qui vont sortir de là.
Ouais.
Et le problème aussi, c'est quand tu choisis les sièges qui sont collés sur les toilettes, peut-être que toi, tu voyages souvent par là aux toilettes, ça se peut, tu sais, ça peut être une raison pour laquelle tu choisis ça.
C'est ça.
Sauf que faut que tu saches que dans bien des avions, le siège qui est collé sur la cloison des toilettes, il va pas s'abaisser, entre autres choses.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Il est stationnaire, lui.
Ça fait que si tu voyages sur longue distance puis tu as besoin peut-être de t'incliner pendant le trajet, oublie ça.
Ouais.
En bien des avions, ça fonctionnera pas.
D'accord avec celui-là, oui.
Les sièges qui sont près de l'aire de préparation et de service des aliments, c'est pas l'idéal non plus.
plus vers l'avant, là, genre.
Vers l'avant. Des fois, okay. C'est l'arrière aussi, mais ouais. C'est parce que ça voyage beaucoup, hein.
Oui, oui.
Ils vont se promener souvent, là, j'allais dire les hôtesses de l'air. C'est un peu réducteur. Disons, ouais. Le personnel de bord va c'est voyager ça. Souvent. Et l'autre chose aussi, de façon générale, on peut dire que la queue de l'avion, c'est aussi l'endroit okay. Où, généralement, on va se sentir le plus mal à l'aise dans un vol parce que c'est là où t'es le plus susceptible de vivre les mouvements de l'avion ou de les subir, si on okay. Veut. Puis, en même temps, à quelque chose, malheur est bon. Les places à l'arrière sont peut-être les pires pour avoir des turbulences, mais quand il y a apparemment un accident, ouais. Quand, par exemple, il y a un atterrissage d'urgence ou un truc du genre qui se fait, mm-hmm. C'est souvent dans la queue en arrière que t'as le plus de chances de survivre ou encore t'as le moins de chances d'avoir des blessures.
OK.
C'est spécial comme ça. Si tu veux avoir des turbulences, c'est la queue en arrière.
Ouais, ouais, ouais.
Mais en contrepartie, si jamais mm-hmm. L'avion se pose, c'est quand il y a un atterrissage ouais, ouais, d'urgence, c'est ça penche par en avant et tout uh-huh. Ça. Et c'est souvent dans la queue en arrière où tu as le plus de chances
de
survie.
Ah ben.
Spécial comme ça. Les meilleures places maintenant.
OK, oui.
Ça a l'air que les sièges près des issues de secours, peu importe la classe, c'est des bonnes places pour s'asseoir. C'est pourquoi? Parce qu'il y a plus il y a plus de place pour les jambes généralement.
Ah, à cause de la porte.
À cause de la porte.
Ah,
souvent, il va y avoir plus de place pour les jambes. Donc, si pour vous, vous étendre les jambes, c'est important.
OK.
Ceci dit, s'asseoir près des sorties d'urgence, c'est un privilège, entre guillemets, qui vient quand même avec des responsabilités.
Oui.
C'est que souvent, on va demander que vous soyez un adulte, d'une part, responsable, mm-hmm. Pour pouvoir assurer que s'il y a des problèmes, vous puissiez justement occuper le poste, entre guillemets, de préposé à la porte. Puis souvent, on va demander aussi que vous soyez bilingue.
Oui.
Au Canada, souvent, là, on va dire, là, OK, tu veux t'asseoir proche de la porte des urgences ou de la porte de sortie mm-hmm. D'urgence. Ça va, mais on aimerait ça que tu sois capable de parler en français et en anglais pour que tu puisses donner...
Et on se fait expliquer aussi la tâche qui vient avec, là.
Oui. Si vous êtes nerveux en avion, tu disais tantôt pas t'asseoir au-dessus des ailes. Ben, ouais. T'asseoir au-dessus des ailes, c'est un des endroits où on subit le moins de turbulences pendant un vol.
C'est l'endroit le plus stable.
C'est l'endroit le plus stable. Mm. En avant et en arrière, okay, tu vas subir les inclinaisons. Tandis que si tu t'assois à la hauteur ou à peu près des ailes, oui, tu risques d'avoir, d'entendre, si t'es des turboprop, là, qu'on appelle, là, oui. Tu vas les entendre.
C'est juste ça qui est un peu tannant.
C'est un peu tannant, mais sinon...
C'est le bruit des moteurs.
Un vol plus calme et paisible, choisissez, là, c'est les sièges à l'avant et près d'un hublot. Ça a l'air que c'est plus okay. Tranquille. Sur le bord de la rangée, ben là, c'est évident que c'est assez passant, là, souvent. Tu vas te faire accrocher et tout ça. Et oui.
Un cart, c'est un coude, là.
Ouais, ça fait pas du bien, hein. Puis quand vous allez vous installer aussi à l'avant, les places à l'avant sont souvent privilégiées par les gens qui veulent sortir rapidement.
Oui.
Si t'es un peu claustrophobe ou t'aimes pas terriblement l'avion,
c'est ça.
Là.
Ouais, va pas t'asseoir en arrière, là.
T'assois en avant, tu risques de sortir avant tout le monde. Et attention, et ça c'est le dernier conseil que je vous donne, un appareil qui est configuré d'une façon pour une ligne aérienne, ça veut pas dire que nécessairement
il est pareil.
Tous les appareils vont être configurés de la même façon.
Effectivement.
Il y a certains gros porteurs, par exemple, va avoir des toilettes puis une cuisine à l'avant et à l'arrière.
Mm-hmm.
Y en a d'autres qui ça va juste être dans une place. Puis alors, moi, je vous donne un conseil. Quand vous choisissez vos sièges avant de partir, longtemps d'avance, si vous voulez voyager, allez sur un site comme SeatGuru, par exemple, SeatGuru.com, okay. SeatGuru, il y en a d'autres comme ça. Et eux autres, ils vont vous donner les particularités, non seulement de chaque appareil, mais de bien des lignes aériennes. Comment les lignes aériennes configurent les sièges de leur avion.
Ben oui.
Alors,
on va juste aller le confirmer.
Vont aller le confirmer. Ouais. Et des sites comme SeatGuru.com.
SeatGuru.
Il y en a d'autres comme ça, mais c'en est un.
Oh.
On s'arrête pour une pause. On vient dans un instant. On a plein de sujets intéressants encore dans cette émission-ci. Restez branchés sur Peut contenir des infos.
Cette émission peut contenir des infos.
Il y a un projet musical qui est assez intéressant, qui se déroule ces temps-ci du côté de l'Ontario. Il y a des ateliers de perfectionnement, des ateliers d'enregistrement qui se font pour les élèves de la 7e à la 12e année. C'est franco-ontarien, j'en conviens, mais je pense que c'est quelque chose qui transcende le niveau régional.
Absolument.
Et ça se passe dans une école francophone de l'Ontario et ça s'appelle E-Studio.
Le e-studio.
Ouais, vous allez entendre ça dans quelques instants.
C'est un concours qui a été lancé en mars 2023. C'est des élèves qui ont composé des chansons et certains étudiants étaient sélectionnés. Ces élèves ont eu la possibilité d'enregistrer leurs chansons dans un studio professionnel. Ils sont 9 aujourd'hui. Ils se familiarisent avec les métiers d'artistes du domaine de la musique, genre la guitare, la batterie, la basse, la voix, les compositions et bien d'autres. L'une des artistes mentors de ce concours-là, c'est Céleste Lévy.
Ah, oh, on la connaît, celle-là.
Oui, on la connaît.
Absolument.
Les chansons enregistrées vont sortir cet été. Et ce projet qui a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de l'Éducation de l'Ontario.
Alors, on va écouter le reportage de notre collègue de l'initiative de journalisme local à la radio Unique FM à Ottawa. Il s'appelle Marie Illès. Elle nous propose ce topo.
E-Studio est un projet de composition musicale destiné aux élèves francophones de la 7e à la 12e année de partout en Ontario. Les élèves choisis ont la chance de participer à des ateliers donnés par des musiciens professionnels franco-ontariens. Marc-Antoine Jouly, coordonnateur du projet.
On est au Raven Street Studio en ce moment et puis c'est ça, on accueille 9 jeunes qui vont faire leur composition en fait, qui ont gagné avec le projet studio. Fait que ça fait vraiment, il y a beaucoup d'énergie en ce moment dans le studio. 4 chansons en tout qu'on enregistre aujourd'hui, donc il y a vraiment beaucoup de musique qui se passe. Puis on est super content d'être ici, puis dans un beau studio avec plusieurs différentes salles. Fait que on a vraiment beaucoup d'espace pour la créativité, puis c'est ça qu'on prône ici. Fait que c'est vraiment cool.
Depuis combien de temps ça existe, ce projet, et d'où est venue l'idée?
Le projet, ça fait 10 ans qu'il existe. L'idée où est venue, c'est plus pour l'apprentissage par expérience. Moi, c'est ma première année que j'ai le mandat cette année, que je suis le coordonnateur. Mais ça fait 10 ans que ça existe. Puis c'est vraiment de faire l'apprentissage par expérience, de pouvoir créer, innover en français, bien évidemment, puis s'assurer que, justement, les jeunes aient les ressources pour avoir de l'aide pour continuer, persister ces choses-là. Parce que des fois, on écrit quelque chose, puis on l'enregistre pas, puis ça fait juste rester sur un voice memo dans notre téléphone.
Quand on te voit parler, on voit cette passion pour la musique dans ta voix. Que représente pour toi la musique d'une manière générale?
La musique, pour moi, c'est une façon de m'exprimer, c'est une façon de m'assurer que je me sente bien, autant au niveau de ma tête qu'à mon cœur. Puis ces deux choses-là, je trouve qu'avec la musique, se parlent puis se rencontrent dans le milieu. Puis souvent, c'est deux entités, mais quand on fait de la musique, les deux viennent pour créer une unité. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse donner cette expérience-là aux jeunes. Puis peut-être une voix aussi pour eux, non seulement avec un micro, mais juste de pouvoir s'exprimer. On peut s'exprimer avec une guitare, on peut s'exprimer avec la façon qu'on joue de la batterie. Donc tout ça, c'est des émotions, veut pas qu'on refoule ou qu'on évoque, tu sais. Puis je pense que en ayant justement ces outils-là pour les sortir, ben ça fait en sorte qu'on devienne les meilleurs humains. Je pense que la musique fait en sorte que le monde a un peu plus de paix, puis on s'entend là-dedans, puis il y a vraiment, tu sais, il y a plein de styles pour gérer toutes ces émotions-là. Puis je trouve qu'on a besoin de ça dans notre monde, tu sais, de plus en plus en fait. Puis je suis content que les jeunes vont pouvoir vivre ça, puis eux aussi pouvoir peut-être partager ça avec leurs amis, partager ça avec les conseils scolaires et tout, pour vous montrer que c'est possible, puis de le faire en français aussi.
Simon Zaloum est en 9e année à l'école secondaire catholique Franco-Cité à Ottawa.
J'ai parlé à Marc-Antoine Jolie, qui a organisé ça, et il m'a dit à propos du projet E-Studio. Donc j'ai soumis une chanson que j'ai écrite avec mon ami Daniel et ça a gagné. Donc on a pratiqué beaucoup et on est venu ici.
Qu'est-ce que tu aimes dans la musique?
C'est le fun et c'est facile.
De quoi elle parle, cette chanson?
La chanson que j'ai écrite avec mon ami s'appelle Envoie-moi dans le Nord et ça parle du nord de l'Ontario et notre expérience à Kansas-Eugène, au festival.
Dans le cadre de différents ateliers, les élèves se familiarisent avec les métiers d'artistes du domaine de la musique. Guitare, batterie, basse, voix, composition et autres. Charlie Sosnex et Autumn Brock sont en 7e année à l'école secondaire catholique Algonquin à North Bay. Elles ont travaillé avec Céleste Lévy.
On vient de vous entendre chanter. Comment vous sentez-vous actuellement?
J'ai vraiment aimé le projet. C'était vraiment fun à faire et de avoir toutes ces détails que je savais pas avant. C'était vraiment, ça l'a vraiment aidé.
Oui, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'étais un peu nerveux quand j'ai entré, mais après j'ai eu la confiance après de faire mon partie dans la chanson.
Donc vous avez écrit une chanson, c'est comme ça que vous êtes arrivé ici. D'où est venue l'inspiration de cette chanson?
On stressait beaucoup au début parce qu'on n'avait absolument rien. Puis j'avais écrit la musique. Puis là, moi puis Autumn, on était dans mon sous-sol. Puis on était là, puis on cherchait, on était dans des synonymes, puis des dictionnaires. Puis là, on a juste commencé à chanter n'importe quoi. Puis ça l'a juste comme vraiment sorti. Puis là, ça l'a juste comme vraiment flowé, puis c'était vraiment bien.
Donc, j'ai un vocal coach qui s'appelle Miss Sam. Puis elle a dit qu'on devrait faire quelque chose de différent, comme... les chansons d'amour, les choses comme ça. Elle a dit d'avoir comme quelque chose qui est à propos de l'espérance. Donc oui, j'ai juste stické avec ça.
Comment a été de travailler avec Céleste? Est-ce qu'elle est méchante?
Elle est vraiment pas méchante. Elle est vraiment gentille. Elle a vraiment encouragé. Puis ça m'a vraiment poussée à qu'est-ce que je pouvais faire. Donc merci.
Elle n'est pas méchante du tout, du tout.
Tu dis ça.
Oui. J'avais un peu de difficulté avec les notes. Puis j'ai poussé un petit peu. Puis ça s'est aidé. Oui.
Céleste, tu es une chanteuse connue dans la région. Tu fais des tournées, tu fais des albums. Pourquoi c'est important pour toi de donner cette passion aux jeunes et à la future génération?
Ben en fait, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour moi, pour ma carrière. Quand j'ai commencé, c'était grâce à des artistes qui étaient là pour m'encourager. Donc, si je suis capable de redonner ce que je peux, ce que moi j'ai vécu, spécialement au début, quand oui, on rentre, on est nerveuse, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, juste d'apprendre que, tu sais, il faut être ouvert, puis faut prendre les conseils et tout, c'est juste pour nous aider. Donc, je suis vraiment très fière de pouvoir être là pour vous aujourd'hui. Je suis excitée. Je pense que c'est une de mes plus grandes passions de faire ce genre de partage-là, tu sais, de pouvoir, comme j'ai dit, tu sais, partager, enseigner ce que je connais. Tu sais, je connais pas tout, mais si vous êtes là pour apprendre un peu ce que je vous ai à dire, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, je suis excitée. Je suis moi aussi, j'apprends dans tout ça, donc c'est vraiment le fun.
Les chansons enregistrées sortiront cet été. C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
Merci beaucoup pour ce reportage. Très intéressant.
Belle initiative, beau concours.
Oui, effectivement. Alors, on va surveiller ça. Les chansons, ça devrait sortir cet été. Toi, l'ami François, tu nous amènes complètement ailleurs.
À quelque part, complètement.
Dans une autre galaxie.
Dans une autre galaxie, effectivement, parce que je vais vous parler de la justice chilienne qui... ont organisé un procès qui visait à rapprocher la justice des citoyens chiliens. Parce que les citoyens s'intéressent plus ou moins à la justice. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Okay.
Ils ont organisé le procès de Darth Vader.
Oh, wow! OK, ouais, c'est ça. Là, on s'en va dans une autre galaxie, là.
Complètement. Et vraiment fidèle au scénario de la saga et à son épisode 5, L'Empire contre-attaque, Darth Vader a été condamné pour avoir coupé la main de son fils, Luke Skywalker.
Okay.
Ce qui est condamné, c'est la mutilation et non ce que M. Vader avait fait auparavant.
OK, donc il n'a pas été jugé pour les actes
qui l'ont précédé,
c'est le fait d'avoir coupé une main, finalement, avec le sabre laser.
Oui, effectivement, ça. Effectivement. Et pour cette raison, et compte tenu des peines prévues par le Code pénal de l'espace, M. Vader devra ainsi rester congelé pendant 30 ans dans la carbonite et aura interdiction d'approcher pendant 30 ans la victime, Luke Skywalker, à une distance d'au moins 3 planètes.
Ah, ouais, OK, ils mettent des bonnes distances, là, quand même.
Ben, tu sais, quand même, là, tu sais. Okay. Mais ce qu'on voulait faire avec, finalement, ce procès...
Scénario.
Grandeur nature, c'est vraiment de rapprocher les gens avec la justice, parce que les gens s'y intéressent pas.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, ça nous intéresse plus ou moins.
Vulgarisation, alors, là, mettre ça au niveau
exactement.
De monsieur, madame, tout le monde.
Oui, c'est ça, pour que le monde s'intéresse vraiment. Puis tu sais, l'histoire de Luke Skywalker, Darth Vader, bon, OK, tout le monde la connaît ou à peu près, puis bon, Darth Vader, tout le monde pas mal laï, là.
C'est pas le bon dans l'histoire.
Non, c'était pas le bon dans l'histoire. Alors, moi, je trouve qu'ils ont vraiment eu une idée géniale d'organiser un procès grandeur nature.
Alors, ils ont plaidé chacun de leur côté.
Oui.
Tout ça, il a finalement été condamné.
Oui, il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde dans la salle de ouais. cours et tout, là.
Pas pire, ça.
Oui. Non, c'est une, franchement une bonne idée.
Ouais. On vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à notre page Facebook.
Oui.
Si vous êtes sur Facebook, évidemment, ça va mieux. Alors, on a une page qui s'appelle « Peut contenir des infos ».
Qu'est-ce que tu vises avec ça?
Je sais pas, moi, peut-être un gars qui est à côté de moi, je sais pas. Et puis, aussi, si vous voulez nous écrire.
Ben oui.
On est à la veille de mettre un terme à cette émission-ci. La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison.
Mm-hmm.
On va faire une pause estivale, mais on va revenir cet automne.
Exactement.
Fait que si jamais ça vous tente de nous écrire pour nous suggérer des sujets,
ben
du genre, gênez-vous pas, là, tu le restes?
Non, malheureusement.
Ah, ben, coudonc.
Ce sera pour une prochaine. PCDI@radiorfa.com. C'est simple comme adresse. Vraiment simple. Mais vous pouvez le faire aussi par la page Facebook, là.
Ah oui, absolument. Si ça vous tente, des fois, on ouvre on fait une publication. Voyons, je vais le dire. Mm-hmm. On fait une publication. Puis, vous avez le droit de commenter en dessous en disant, moi, j'aime ça, ce sujet-là. Mais si tu me parlais de tel autre sujet, j'aimerais ça.
Ça serait une bonne idée. Oui.
Ça, OK. Ça arrête pour une pause. On revient dans un instant. Vous écoutez Peut contenir des infos. Puis, ça paraît que la saison est avancée.
C'est ça, oui.
Ça va vers l'été.
Avertissement. Cette émission peut contenir des infos.
Simon, si je te dis entreposer ton vieux cellulaire, sais-tu quoi faire?
Bon, c'est probablement le coin d'une tablette à quelque part. Là. Dans mon cas, ça ressemble pas mal à ça.
Ouais, moi aussi. Mais pourtant, c'est pas ça qu'on devrait faire.
Non, je pense.
Non, c'est pas ça qu'on devrait
faire. Si tu me poses la question et si je te donne cette réponse-là, je présume que c'est pas la bonne réponse.
Oui, effectivement. c'est juste que le cycle de mise à jour des cellulaires, à un moment donné, arrive à sa fin. Hein?
Oui.
Alors, notre téléphone devient finalement désuet. Et puis là, si on veut garder un niveau de sécurité dans notre téléphone, on n'a pas le choix, faut passer à autre chose. Ce qu'on fait avec notre téléphone, ben moi je les donne.
Oui.
Moi je les donne à des gens de ma famille ou des amis ou des.
Ok.
Tu sais pour continuer à l'utiliser parce qu'il y en a qui s'en servent plus ou moins. Tu sais, alors pour eux autres c'est correct un téléphone qui est quand même un petit peu désuet. Mais par contre, si vous vous êtes, puis je m'en garde toujours un ou deux.
Ah, juste au cas, ouais, des fois.
Oui, juste au cas des fois que celui-là que j'ai tombe en panne, ben au moins j'ai un backup.
Oui,
oui. Fait que c'est toujours une bonne idée de se garder un backup.
Oui. Allez pas tous. Moi, ce que je fais, c'est que quand le téléphone est en fin de vie, plus souvent qu'autrement, je vais aller les porter dans un point de collecte.
Ah, OK. Oui.
De déchets électroniques.
Oui.
Il y a beaucoup de grands magasins. Tu sais, je vais donner un nom, le Staples Bureau en fait. Les trucs du genre, là, t'as des boîtes, là, tu peux aller les porter là. Mais effectivement, j'essaie d'en garder au moins un ou deux dans la maison pour.
Juste au cas des fois.
T'es couque.
Bon, oui. Et s'il vous plaît, ne jetez pas ça à la poubelle.
Eh non, jamais.
S'il vous plaît. Donc, la façon d'entreposer vos téléphones, c'est assez simple. Il y a juste quelques grandes règles à respecter si vous voulez conserver votre téléphone quelques années, juste au cas.
Oui.
OK. Apple propose des informations sur le stockage à long terme de ses produits. Ce que je vais vous parler là, ces conseils-là sont valables pour tous les appareils.
Oui.
OK, que ce soit Apple, que ce soit Android, n'importe quoi.
OK.
Bon. Vous stockez l'appareil avec une charge de 50%. Ben important.
Ah oui, hein?
Oui. Pas 60, pas 40, 50. Si vous le stockez entièrement chargé, ce que je fais, vous risquez de réduire la durée de vie de la batterie.
Ah?
Inversement, si vous le stockez avec une charge qui est insuffisante, la batterie risque de se décharger au point de ne plus pouvoir prendre de charge.
Ah!
OK.
Wow!
Éteindre l'appareil, bien important.
Non, tu sais.
Ça, je le fais par contre.
J'espère.
Conserver l'appareil dans un endroit frais, donc en bas de 32 Celsius.
OK.
OK. Et surtout, Et c'est là, c'est bien important, à l'abri de l'humidité.
Ah ben, j'en conviens.
Oui.
Ça.
Et vérifiez l'appareil tous les 6 mois et rechargez-le à 50%.
Ah, OK.
OK. D'autres petits conseils qui pourraient vous aider. Vous pouvez envelopper votre téléphone dans du Saran Wrap. OK, c'est ben nono, là. Tu l'enveloppes dans du Saran Wrap, puis tu le mets dans un petit Ziploc pour une sandwich, là.
Oh oui, genre, c'est le même sac avec...
C'est la bonne grosseur, c'est la parfaite grosseur pour un téléphone. Comme ça, va être à l'abri de la poussière.
Oui.
Et de l'humidité.
Absolument.
Hein? C'est pas bête. Protéger des températures extrêmement basses. Donc, à moins 20, c'est pas une bonne... Tu sais, garder ça dans le garage, là, c'est pas une bonne idée.
Ben, les téléphones n'aiment pas les extrêmes de toute façon.
Non, c'est ça.
Comme exactement. La majorité des produits électroniques, on s'entend, là.
C'est ça, oui.
Moins 25, puis plus 40, 45.
Tout ce qui a une batterie, là, c'est pas une bonne idée.
Non.
Lorsque vous rechargez la batterie à 50% tous les 6 mois, profitez-en pour faire les mises à jour de vos applications.
Ah, OK.
Comme ça, quand vous allez vous en resservir, à un moment donné, vos applications vont être à jour. Il n'y aura pas besoin de faire 150 mises à jour. Hein? C'est pas une mauvaise idée. Et si vous constatez que 1 an ou 18 mois se sont écoulés et que vous n'avez pas encore utilisé l'appareil, il y a de fortes chances que vous n'allez pas l'utiliser. Donc, ce serait peut-être pas une mauvaise idée avant qu'il devienne vraiment trop désuet de le passer à quelqu'un d'autre.
Ouais. De le vendre, hein? Si vous êtes capable,
oui.
Parce que ça se peut, tout ça.
C'est ça.
Ou sinon, de lui trouver un autre usage, parce qu'un vieux téléphone cellulaire, ça peut servir à un paquet d'affaires.
Absolument.
Ça peut servir de GPS dans la voiture, si vous n'avez pas un système embarqué dans le tableau de bord.
Mm-hmm.
Ça peut servir de dashcam, de caméra.
Oui.
Ouais.
C'est vrai.
Des applications qui se font pour... Puis là, tu fais juste installer un petit... excusez l'expression anglaise, un petit rack mount, là, une espèce de petit support là, à ventouse là, que tu colles dans le pare-brise.
Dans le pare-brise.
Avec ton vieux téléphone cellulaire, magie, tu viens de te créer
Une caméra.
Une caméra de... Ouais, une dashcam de cette façon-là.
Très bonne idée,
Il y a un paquet d'affaires que vous pouvez faire avec un vieux téléphone cellulaire. Si c'est pas de le récupérer ou de le donner à quelqu'un d'autre, au moins... J'allais dire, pas ça d'invidence.
C'est ça, exactement.
OK?
Ça y est,
des fois, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. C'est une invidence.
Oui, mais ça, c'est la pire affaire que vous pouvez faire.
Mais faites pas ça.
Oui, c'est ça. Allez à un dépôt.
Exactement.
Oui.
Connais-tu le code QR?
Le code QR?
Oui, le code QR.
Ben oui, j'en ai un pour mes 90 vaccins que j'ai eu pour la COVID, là.
Et voilà. Voilà, exactement. Il est carrément inconnu de certains ou ignoré par d'autres. Oui. On sait pas nécessairement à quoi ça sert, d'où ça vient, que ça fait, que ça mange en hiver.
Par contre, si tu me demandes d'où ça vient, là, je pourrais pas te dire.
Bon, voilà. Alors, il passait jusqu'à récemment pour une espèce de gadget aux yeux de plusieurs. Tu sais, on voyait ça, un code QR, une espèce de petit carré noir.
Ben oui, c'est ça, avec des petits points. Puis...
Yes, c'est ça, cette patente-là. Mais c'est la pandémie de COVID-19, évidemment, comme tu l'as dit, qui lui a donné ou redonné ses lettres de noblesse.
OK.
Avec le passeport vaccinal, on l'a vu apparaître effectivement sur le passeport vaccinal dans plusieurs états du globe et on l'avait sur nos appareils mobiles ou encore un petit bout de papier.
Oui.
Là. Et c'est ça, un code QR finalement. Mais là, je vais vous dire d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne et tout ça. Alors, le code, et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que le code QR, mine de rien, va avoir officiellement 30 ans en 2024.
Wow! Déjà, déjà 30 ans.
30 ans. C'est un ingénieur japonais du nom de Masahiro Hara.
OK.
T'aimes-tu mon japonais?
Je trouve que ton accent est parfait.
Masahiro Hara.
Oui, c'est parfait.
Il a inventé ça en 1994. Donc,
okay.
1994. Donc, 30 ans en 2024.
Ouais.
Lui travaillait dans une usine de pièces qui fournissait Toyota. À cette époque-là.
Okay.
Ouais. Puis il voyait passer sur les pièces des codes-barres ordinaires.
Oui.
Les fameux codes-barres qu'on voit à l'épicerie sur à peu près tous les produits.
Tous les produits,
Il voyait ça, mais c'était pas tellement, fonctionnel, dans le sens où un code standard, un code-barre standard, ça enferme so much là, d'informations. Lui, il s'est dit, il devait avoir moyen d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fonctionnel ou d'un petit peu plus utile que ça. Alors lui, c'est là qu'il a créé justement sur la base d'un jeu japonais qui s'appelle le Go, une espèce de jeu où on déplace des carrés, des trucs de genre. Il a décidé de créer un code bidimensionnel.
Hmm.
Tu connais les trois dimensions.
Oui.
Il y a une dimension, lui, il est bidimensionnel. Okay. Il y a la tridimension, donc oui. Quoi. Alors, lui, il a fait bidimensionnel. Je vous expliquerai un peu pourquoi, plus tard pourquoi que c'est, on le considère comme bidirectionnel. Et carrément, contrairement, devrais-je dire, au code barre standard qu'on voit aujourd'hui sur un paquet de produits, c'est que le code QR, QR, ça veut dire quoi d'après toi?
Ça?
Quick response.
Quick. Ah ouais, OK.
Quick response, c'est ça que ça veut dire.
Oh.
Alors, lui, il renferme l'équivalent d'une demi-page de texte au format A4, donc les tu sais les pages standards.
Une demi par 11.
Ou à peu près, moi, c'est ça. Alors, c'est 4296 caractères alphanumériques. C'est, tenez-vous bien, 200 fois plus d'informations que ce qu'on trouve dans un code-barre original.
Que le petit code-barre, c'est produit. Là.
Exactement.
Ah! Oh.
Fait que c'est pour ça qu'on peut s'en servir pour un paquet d'applications comme... Mm-hmm. Un passeport vaccinal, par exemple. Alors, comme on peut inclure davantage d'informations, il devient plus intéressant. Et pour, justement, le disons la gestion des stocks, le monsieur, il Colin, avant ça, j'étais capable de prendre, t'sais, mettons, l'origine du produit, puis 3-4 affaires comme ça, puis là, il est capable de dire sur quel modèle ça s'installe, puis des... Alors, comme il est à deux dimensions, l'avantage du code QR, c'est qu'il peut être lu à 360 degrés, dans n'importe quelle direction, contrairement au code-barre. Tu sais, le code-barre standard, faut que tu sois aligné sur la barre laser.
Oui.
Code QR, il y a pas de problème avec ça.
Okay.
Peut être d'un bord, peut être de l'autre. Tu peux le lire facilement. Donc, il y a, comme je le disais tantôt, 200 fois plus d'informations que les codes-barres standards. Et on peut même lui mettre de la couleur, des mots, des images. On peut mettre un petit logo dans le milieu et tout ça. Donc, ça le rend encore plus intéressant. Et fait à noter, c'est que la marge d'erreur des codes QR est très, 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 très faible. Très, très faible comparativement à un code barre standard où il suffit simplement d'avoir une petite barre de trop puis ça marche plus. Et puis, un code QR, c'est que même sale ou même légèrement altéré, on peut continuer à le lire quand même. C'est ça qui est fantastique. Évidemment, on invite les gens à le protéger, là, si vous vous servez d'un code QR, par exemple, pour, je sais pas, moi, dans une vitrine de magasin pour indiquer les heures d'affaires puis le menu, c'est peut-être mieux de le mettre à l'intérieur qu'à l'extérieur de façon à ce qu'il soit pas altéré par les intempéries ou en tout cas pas trop, mais il va quand même supporter relativement bien le poids des années.
Okay.
Et à quoi ça sert? Ben, je l'ai dit tantôt, gérer les stocks des pièces de voiture, on s'en sert aujourd'hui pour le paiement mobile, PayPal, entre autres, Square aussi, l'utilise,
c'est vrai.
Peut payer avec des codes QR. On peut l'utiliser pour entrer plus rapidement à des événements, comme les billets numériques, par exemple. Avant ça, tu étais obligé de passer ça sur un...
C'est ça.
Très bonne date, très bonne heure. Là, ils font juste lire tout simplement et ça va très rapidement. Et il y a aussi, je terminerai avec un autre simple exemple, les restaurants l'utilisent aussi beaucoup de plus en plus.
Pour les menus
de restaurants.
Oui.
C'est parce que ça a l'avantage que tu lis avec ton téléphone cellulaire, puis ça ouvre une page web ou encore d'informations qui peut être mise à jour comparativement au menu imprimé.
Oui, il faut que tu changes les pages tout le temps.
Tu sais, quand tu te retrouves à mettre
du white out,
c'est ça, là, du liquid paper sur le menu pour écrire par-dessus ou encore un morceau de masking tape pour être capable d'écrire. Ça fait que l'avantage, il est là, entre autres choses, pour les restaurateurs.
Alors, 30 ans. Hein?
30 ans. Ouais.
Honnêtement, là, j'aurais pas pensé que c'était si vieux que ça.
Non, ben alors c'est ça. Alors 1994 à 1994, le code QR, vous le saurez maintenant.
Ben oui. Tu te souviens quand il y a eu une mode à un moment donné, les gens avaient leur carte d'affaires en code QR. Puis là, tu faisais juste scanner le code de la personne que tu venais rencontrer, puis oup,
ben ça existe
encore. Elle t'envoyait sa carte.
Oui, ça existe encore. Oui. Hein. Il y a des gens qui se servent encore de ça. C'est parce que tu peux rentrer suffisamment d'informations. Donc, tu peux rentrer ce qu'ils appellent des V-cards, des virtual cards dans ton code QR. Et de cette façon-là, ben plutôt que comme à une certaine époque, les représentants publicitaires, par exemple, des stations de radio ou encore un vendeur d'assurance ou je sais pas trop, se promenait avec une pile de cartes d'affaires dans ses poches, sa mallette. Ben là, aujourd'hui, il y a simplement qu'à avoir un code QR dans son téléphone cellulaire. Il va chez un client puis il dit « Ah, tu veux mes coordonnées? » ben scanne ça.
C'est ça.
Puis automatiquement, ça rentre dans l'annuaire des contacts.
Mm-hmm.
Donc, c'est voilà. C'est, oui. Il y a beaucoup d'applications comme celle-là. On marque un temps d'arrêt. On revient dans un instant. Nous en serons rendus à la dernière.
Oui.
Dernière portion de cette avant-dernière émission de la saison.
Dernière de l'avant-dernière.
Ouais.
OK.
Hein, tu me suis un peu?
Non.
Et on revient dans un instant avec la suite de Plus contenir des infos.
Cette émission peut contenir des infos.
Je sais que François est un adepte des automobiles de façon générale.
Oui, je m'intéresse beaucoup à l'automobile.
Ouais, t'es un fidèle...
J'aime voir ça évoluer.
Fidèle lecteur, entre autres, du site de Marc Bouchard.
Absolument, un gars de char, oui.
Qu'on devrait recevoir la saison prochaine, hein? Ouais,
oui, encore. Absolument. Ouais,
on l'a eu au cours des deux dernières saisons, c'est-à-dire l'automne et l'hiver, mais mm-hmm. Je pense qu'on va le réinviter, c'est un chic type, puis toujours intéressant. Je te parle d'une batterie, ou enfin je vous parle, mesdames, messieurs, d'une batterie révolutionnaire qui pourrait, disons, transformer le monde de l'automobile. Les prétentions sont très grandes, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas juste, comment je dirais ça, c'est pas juste dans l'imagination de quelqu'un, c'est que ça s'en vient, là.
Oui. Ouais. Oh oui, ils l'ont testé. Là.
Absolument. Batterie qui promet une autonomie de 1000 km et surtout qui va se recharger de façon ultra rapide en été comme en hiver.
C'est ça.
Wow. C'est une entreprise du nom de Greater Bay Technology qui a dévoilé, une compagnie chinoise, soit dit en passant, qui vient de dévoiler sa dernière innovation, la batterie Phoenix. Une batterie qui va permettre d'atteindre une autonomie qui pourrait aller jusqu'à 1000 kilomètres.
Ouais, ça commence à être intéressant, là.
Ben, ça commence. C'est même très intéressant. Très intéressant dans la mesure où ce qu'il y a de plus fantastique là-dedans, c'est que non seulement les caractéristiques sont intéressantes, mais les ambitions également de cette batterie-là vont vous surprendre. Ce qu'on promet avec cette nouvelle batterie-là, c'est que vous allez recharger votre voiture et passer de 10 % à 80 % en seulement 6 minutes.
6 minutes.
C'est un plein d'essence.
C'est... oui.
À toute fin utile.
À toute fin utile, c'est s'arrêter pour mettre de l'essence, oui.
Wow! Là, je suis comme un peu flabbergasté parce que jusqu'à présent, on parlait des fois de rester planté pendant une demi-heure, une heure à une bombe de recharge.
C'est exactement.
Et même quand on améliorait la recharge, c'est que souvent dans les batteries des voitures électriques, c'est que passer, on va dire, de 10 à 80 % ça va assez rapidement parce que il y a pas comme cette espèce de buffer qu'on se garde à la fin. C'est que là, ça va monter, puis c'est de passer après ça de 80 à 100 % qui est un peu plus problématique parce que le système jauge pour pas qu'il y ait un dépassement de l'énergie, puis que ça se fasse de façon à pas, disons, saturer la batterie. Je sais pas si le terme est correct.
Mais c'est pour ça que, généralement, les gens qui produisent des batteries vont vous dire, ils vous donnent toujours le temps de recharge de 10 à 80.
Généralement, moi.
Généralement, c'est toujours ça, parce que c'est le temps le plus court.
Et la batterie Phoenix est compatible avec une large gamme de tensions de 300 à 1000 volts, qui va la rendre assez polyvalente pour...
À 1000 volts, là, il y a de l'énergie qui rentre là-dedans.
Oui, alors il y a plusieurs véhicules électriques distincts vont pouvoir s'en servir. Et ce qu'il y a de plus particulier encore avec cette technologie qui a été développée par Greater Bay Technology, c'est que elle sera pas sensible au froid, ou en tout cas beaucoup moins que les autres batteries. Écoutez, les températures froides...
C'est quasiment 50 % l'hiver là, qui perdent.
Exact. Et on sait que ça a un impact négatif sur l'autonomie, le temps de charge, le temps froid, comme celui qu'on connaît au Canada. On sait qu'on est un pays nordique, là, on se le cachera pas. Et l'autonomie des voitures équipées de cette batterie ne changerait pas, et ce, quelle que soit la température extérieure, grâce à l'utilisation de matériaux supraconducteurs pour les cellules. Ce qui fait que on est capable de faire passer les cellules d'une température de moins 20 à 25 degrés en l'espace d'à peine 5 minutes.
Okay.
Et de là, le fait que cette recharge-là puisse se faire aussi rapidement, c'est que les cellules n'ont pas besoin de reprendre une température, on va dire, normale pour être rechargées de, comme on le disait, de 10 à 80 % en l'espace d'à peu près 6 minutes. Et la batterie, là, c'est pas comme quelque chose qui est dans sur les planches à dessin ou qui est dans l'imaginaire.
Ouais, non, c'est ça.
Elle s'en vient, là. C'est plus au stade de développement et on est presque rendu au stade de la production. Elle va être d'ailleurs installée sur une voiture de série dès l'année prochaine. Et c'est un véhicule de la marque chinoise Aion.
Oui.
Je sais pas si je le prononce correctement. A-I-O-N, là.
Oui.
Alors, cette voiture-là va être la première à en être équipée, batterie qui va être en production de masse dès 2024 et qui va donc être prête à commercialiser. Et comme si c'était pas suffisant, et ça, là, c'est comme, écoute, déjà, t'as une batterie qui charge de 10 à 80 été comme hiver en 6 minutes. Et la compagnie est tellement confiante dans son produit qu'ils ont dit, on va vous prouver que ça marche. On va mettre une garantie 10 ans, 800 000 km sur la batterie.
Ah, c'est bien.
C'est, moi, je trouve ça extraordinaire.
Ouais. Ben, on fait un beau grand pas vers l'avant, là.
Un beau grand pas
avec cette batterie-là, là. Bien des gens, parce que c'est il est là le problème, c'est pas la durée de vie des batteries, parce que la durée de vie des batteries, après 10 ans, il va te rester 75% dans ta batterie.
Là. Ouais, c'est ça.
C'est pas nécessairement là le problème. C'est vraiment la distance que tu peux parcourir, puis d'être obligé de t'arrêter 30 minutes. Désolé, mais la majorité des gens veulent pas faire ça.
C'est ça. Alors là, avec une batterie qui est capable de te conduire jusqu'à 1000 km, en prétendant, par exemple, que à 80%, tu dis, moi, j'arrête ça là, puis je continue, ben c'est quand même fantastique de penser que si tu as déjà parcouru 700 ou 800 km avec ta première charge, on va dire à 80%, tu t'arrêtes dans une station de recharge, 6 minutes plus tard, tu es capable de faire un autre 700-800 km. Oui. Ce qui fait que ton voyage, par exemple, pour partir de, on va dire, Ottawa pour t'en aller à Moncton ou Nouveau-Brunswick ou un truc du genre, t'es à toute fin utile, capable de le faire à peu près dans le même temps que tu le ferais avec une voiture à essence à combustion. Là.
Oh oui. Puis tu sais, qui va conduire 8 heures sans s'arrêter?
Ben, peut-être François Côté, là, mais...
Ouais, non, quand j'étais plus jeune, oui, mais pas plus maintenant. Bon, question de clore cette émission.
Oui, parce que la semaine prochaine, c'est la dernière.
Oui, mais c'est une émission spéciale qu'on vous réserve. Oui, okay. On vous en dit pas plus, mais c'est une émission spéciale qu'on vous réserve. Donc, en principe, c'est un peu la dernière de la saison. Et on pouvait pas finir la saison sans faire un autre quiz.
OK, pour essayer de coincer les doigts dans la trappe.
J'ai hésité longuement entre un quiz sur les kangourous ou les chats.
Ah, OK.
Étant donné ton amour pour les petits félins, j'ai finalement choisi les chats.
Ah oui, tu te souviens que on a eu un chat Idéfix à l'époque, ça t'avait bien fait rire d'ailleurs.
Ben oui, Idéfix, un chat.
Un chat.
Idéfix, un chat. Ben oui. Première question, mon cher.
Oui.
Combien le chat dort-il en moyenne d'heures par jour? Ah, oh, je te donne un choix de réponse.
Ah oui?
Oh,
bon,
je te donne un choix de réponse. 8 à 10 heures, 15 à 18 ou 18 à 20 heures?
C'est certainement aux alentours de 15 à 18 heures. Je pense que c'est 16 heures ou un truc du genre.
Ouais, c'est correct.
C'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein?
Bon. quel condiment rend certains chats complètement fous? L'olive, le cornichon ou la capre?
J'irais pour l'olive.
Coudon, t'as-tu vu mes feuilles
non,
encore?
Du tout. Mais je vais te faire une confidence.
OK.
C'est que Idéfix, le chat que nous avions à la maison chez nous, il était fou de ça, les olives.
Ah oui?
Ouais, il aimait bien ça, les olives. Fait quand on faisait des buffets, mettons, puis on recevait des gens à la maison, puis qu'il y avait des olives qui traînaient quelque part, on lui donnait des petits morceaux d'olives, puis...
Ah oui,
hein? Ça, les olives. Faut pas que ça soit vinaigré, par exemple, là.
Ouais.
Juste des olives ordinaires, là, tu sais.
Oh, oui. Ouais. Avec le petit patente rouge dans le milieu, là.
Ben, essayez de lui donner des olives, pas de noyau, par exemple, là. Parce que...
Quels chats de gouttière sont toujours des femelles?
Hein? Qu'est-ce que c'est ça?
C'est ça. Les tricolores écailles de tortue, les bicolores noirs et blancs ou les roux?
Hein?
Donc, il y a un chat de gouttière qui est toujours des femelles.
Ah, là, c'est une pointe. Là, j'ai aucune idée. Je vais prendre une chance.
Oui.
Je vais y aller avec les roux.
Malheureusement, c'est les tricolores écailles de tortue.
Ah oui?
Oui. C'est toujours des femelles.
Ah, ouais. C'est bien weird.
Quelle race de chat adore se baigner? Le siamois, le chat turc du lac de Vannes ou le chat des forêts norvégiennes?
OK, j'allais dire l'abyssin, mais il est pas là, ça fait que je vais dire celui des forêts norvégiennes.
Malheureusement, c'est le chat turc du lac de Vannes.
Ah ben oui, ben du
ben
lac.
Ben c'est ça.
J'aurais dû y penser. Là. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un nom du lac de Vannes que c'est nécessaire. Il aime l'eau du lac.
Exactement,
là.
Exactement. Okay. Quelle boisson les chats digèrent-ils mal? L'eau, le jus de viande ou le lait de vache?
Le lait de vache.
Oui, vous avez raison, mon cher. Aussi ding, 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 ding.
Ouais, aussi bizarre que ça puisse sembler, oui. Ouais. Ouais. On a toujours pensé donner du lait à un chat. Pis...
C'est ça. Puis non, on devrait pas.
Non.
On devrait pas. À quelle vitesse le chat court-il en moyenne?
Et où?
20 km/h, 30 km/h ou 40 km/h?
Ouais, 40, c'est un peu beaucoup, là. Je dirais à peu près une trentaine de km/h, probablement.
C'est 40.
40 km/h?
40 km/h. Wow. Hey, c'est vite. Je pense pas que c'est aussi vite que chat. Ah. Que chat.
Que chat.
Que chat. Ah. Combien le chat a-t-il de griffes?
Je fais du coq à l'heure, mais toi, ben...
C'est ça. Moi, je fais du chat.
Tu fais du chat. C'est chat.
Combien le chat a-t-il de griffes? 18, 20, 22. On s'entend, il faut que ce soit hyper, là.
Ouais, ben, ça doit être une vingtaine, là. 5 par 3.
C'est 18.
C'est 18?
C'est 18. Comment le chat goûte-t-il les odeurs? En les respirant, avec son organe de Jacobson, ou en les léchant?
Ah, il les lèche.
Non, c'est avec son organe de Jacobson qui est en arrière du nez. Ah. Il est situé en arrière du nez, là.
OK.
Oui. Et on termine avec ça. Comment le chat transpire-t-il?
Par les coussins. C'est ça?
Je peux-tu dire les choix de réponse?
Oui, 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 mais excuse-moi, c'est parce que j'étais trop optimiste.
Par la peau, par la bouche et les coussinets. Et il ne transpire pas.
C'est ça, par les coussins.
Oui, oh, oui, c'est ça, par la bouche et les...
Et la bouche,
oui. Ouais. Et juste pour finir, combien peut mesurer le plus grand kangourou du monde?
Le plus grand kangourou du monde, ça ne doit pas être loin de 2 mètres.
Ça veut dire... 13,5 mètres,
hein? Non.
11 mètres okay. Ou 15 mètres.
OK, tu parles pas. OK, avec la queue.
Oh oui, avec la queue.
Avec
là.
La queue, OK.
Oh oui.
Moi, je dirais à peu près 13 mètres. Là, ça.
Oui, 13,5 mètres.
Ah, ben oui.
Ah, mais j'avais sorti un vrai quiz pour les kangourous. Là. Tu vois, regarde, je te montre mes... Mais je vais le garder pour la...
Pour la saison prochaine.
Pour la saison prochaine.
Parce que la semaine prochaine, nous allons avoir une émission spéciale.
C'est ça. On va aller se promener.
Ah, on vous en dit pas davantage.
Ah, c'est pas pire quand même, là, comme indice.
Ouais, ben déjà, ouais, on énonce pas mal nos couleurs, mais en tout cas. Alors, passez une bonne semaine.
Oui, passez une bonne semaine.
Merci d'avoir été là pour cette avant-dernière édition de Plus contenir des infos pour cette saison-ci, parce qu'on va faire relâche...
Cet été.
Cet été.
Oui.
Et puis, on espère que vous allez être là pour la semaine prochaine, pour la dernière.
Oui, absolument.
Vraiment, salut.